Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de feuilleter avec vous les carnets du monde jusqu'à 14h. Une grande vadrouille qui nous mènera d'abord en Afghanistan, où une jeune femme, conseillère parlementaire, a été assassinée en pleine rue, en plein jour. 9 balles pour avoir réussi à divorcer. La situation des femmes en Afghanistan est un combat permanent et menacée aujourd'hui par les pourparlers avec les talibans, ceux-là même que les Américains avaient fait tomber en 2001, il y a plus de 17 ans. On va à Kaboul dès le début de ces carnets. Puis nous recevrons un invité de marque, un grand écrivain et dramaturge, Laurent Godet, notamment prix Goncourt 2004. À la veille des élections européennes, il publie un long poème pour dire son attachement à cette aventure commune de 27 pays, une conviction pas dénuée de critiques. Avec lui, nous irons écouter les doutes et envies des Italiens, des Hongrois et des Roumains. On découvrira ensemble un film d'animation tiré du roman Les Hirondelles de Kaboul qui dénonce l'intégrisme. Ce sera avec Virginie Salmen à Cannes. Et puis le grand chef Joseph Chovanec nous dira son admiration pour les peuples premiers. Les carnets du monde sont ouverts et on file à Kaboul. C'est une terrible histoire qui rappelle que l'Afghanistan est l'un des pays les plus dangereux pour les femmes. Mina Mangal était une jeune femme à l'esprit indépendant, ancienne journaliste à la télévision, devenue conseillère au Parlement. Il y a 8 jours, elle a été abattue de 9 balles à bout portant en pleine rue à Kaboul par 2 hommes à moto. Ses parents accusent la famille de son ex-mari, une piste que privilégie aussi la police, car après 2 ans de lutte ponctuée de menaces, elle venait enfin d'obtenir le divorce. À Kaboul pour Europe 1, Margot Ben est allée rencontrer la famille de Mina Mangal.
Dans le petit salon au mur rose orné de fleurs, toute la famille est réunie. Mina Mangal était leur sœur, leur fille, leur cousine, et chacun veut évoquer son souvenir. Mais dès qu'Anissa, la mère, prend la parole, tout le monde se tait.
5 minutes après que Mina a quitté la maison pour aller au travail, j'ai entendu des tirs dans la rue. Mon mari a couru dehors pour voir ce qu'il se passait. Lorsqu'il est arrivé, il y avait une foule de gens et du sang, beaucoup de sang. Tout le monde essayait de me rassurer, mais dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose à ma fille. J'ai su qu'elle était morte.
Mina Mangal avait beaucoup d'ennemis. Certains conservateurs ne voyaient pas d'un bon œil cette femme engagée et médiatique. Il y a 2 ans, elle était allée jusqu'à critiquer publiquement son propre mariage arrangé et s'était attirée les foudres de sa belle famille.
C'est sa belle famille qui a fait ça, j'en suis sûre. Ils sont très conservateurs. Juste après son mariage, il y a 2 ans, ils l'ont séquestrée et battue pendant des jours pour l'empêcher d'aller travailler. Ensuite, elle est rentrée vivre chez nous. Elle a demandé le divorce. Ils avaient tellement de haine dans leur cœur, surtout avec cette histoire de divorce, qu'ils la menaçaient tout le temps. Même à nous, ils disaient « On va tuer cette fille ».
L'Afghanistan a l'un des plus forts taux au monde de violences domestiques. Le père de Mina, désormais, a peur pour ses autres filles, elles aussi émancipées.
La vie avec Mina était remplie de beaux moments. L'un de mes souvenirs les plus chers est le jour de sa première présentation télévisée. Elle était si heureuse en rentrant qu'elle n'a rien avalé au déjeuner. Nous étions tous si fiers et contents que nous avons jeté des friandises en l'air pour célébrer ça, comme le veut notre culture. À présent, j'ai peur pour mes autres filles. Certaines sont étudiantes, d'autres enseignantes. Je crains qu'il leur arrive la même chose.
Depuis la chute du régime taliban en 2001, la sécurité des femmes et leur accès à la justice ont été sérieusement améliorés. Mais il reste encore bien du chemin à faire. Najia Nassim est directrice de l'ONG Women for Afghan Women, qui accompagne des femmes victimes de violences.
Ce type d'incident n'est pas rare. Il y a des cas de violence extrême, comme des femmes battues ou mutilées, ou à qui leur mari jette de l'acide au visage. Mais il y a eu ces dernières années beaucoup de progrès en termes d'accès à la justice. Par exemple, nous avons eu le cas d'une fillette mariée de force à 13 ans. Son mari voulait l'obliger à se prostituer. Quand elle a refusé, il l'a enfermée dans un sous-sol et l'a affamée des jours durant. Il lui a arraché les ongles et lui a fait subir toutes sortes de sévices corporels. Finalement, la police l'a libérée et toute la famille a été mise en prison.
Malgré les progrès, selon le dernier classement de la fondation Thomson Reuters, l'Afghanistan reste aujourd'hui le second pays au monde où il est le plus dangereux d'être une femme. Kaboul, Margot Ben, Europe 1.
Voilà, deuxième pays derrière l'Inde. Bonjour Chekeba Hashemi.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes franco-afghane, ancienne diplomate à Kaboul et fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre, créée il y a plus de 20 ans déjà pour faciliter l'accès des filles et des femmes afghanes à l'éducation, à leurs droits, à la santé. Alors, c'est vrai que quand on entend ça, on se dit que la tâche est immense. Cette fameuse enquête de la fondation Thomson Reuters montre aussi que les Afghanes ont le pire accès aux soins de santé au monde. Et c'est aussi le pays où elles subissent le plus d'agressions, de harcèlement, de violences physiques et verbales. C'est-à-dire que cet assassinat terrible de Mina Mangal, c'est un cas parmi beaucoup d'autres.
Oui, bien sûr. Malheureusement, on se bat avec l'Inde pour le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde. Et bien sûr, le cas de Mina Mangal n'est pas un cas particulier. On parle de sa famille, mais ça fait depuis, ne serait-ce que depuis janvier 2019, on en est déjà à 9 journalistes tués dans leur bureau ou sur le chemin ou chez elles. Ouais. Et je parle même pas là de tous les attentats dans les lieux qui sont les lieux de vie et de l'expression des femmes et des hommes en particulier.
C'est chaque semaine.
Voilà. Depuis 2 ans en Afghanistan, ça c'est d'après les Nations Unies, où il y a, c'est le nombre de civils tués le plus élevé au monde.
Vos équipes chez Keba Hashemi œuvrent tous les jours sur le terrain, près de Kaboul, mais aussi dans la vallée du Panjshir, elles animent des maisons d'éducation à la santé, des maisons des femmes. Est-ce que la situation des filles et des femmes s'améliore quand même, ou est-ce que c'est un éternel retour à l'obscurantisme ?
Alors moi, je n'aime pas parler de façon pessimiste en disant que tout va mal, même si c'est le cas en gros. Mais il ne faut pas oublier aussi que le peuple afghan est un peuple très optimiste. Et les femmes encore plus. Et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on continue à vivre et garder l'espoir après 45 années de guerre non-stop. Et aujourd'hui, moi je remarque avec les équipes d'Afghanistan Libre sur le terrain, qui sont à 1-2 heures du centre de Kaboul, déjà il n'y a plus aucune ONG. Donc ça, c'est déjà pour montrer là où nous avons nos écoles. Avant, il y avait d'autres ONG. Il n'y a plus de représentation des ONG pour des problèmes de sécurité. Et je ne vous cache pas que je suis collée à mon téléphone ici à Paris pour savoir si elles sont bien rentrées de Parman, de Panjshir, parce que toutes les semaines, elles sont sur le terrain dans nos écoles, dans les maisons de femmes, et elles craignent elles-mêmes. Et c'est déjà très héroïque aujourd'hui pour toutes les Afghanes qui se rendent à leur travail, que ça soit à Kaboul ou en dehors, parce que depuis ces 5 dernières années, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une opération Kamikaze. Toutes les régions où les talibans sont rentrés frontalières au Pakistan, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une école qui n'est pas brûlée, ou un professeur qui est assassiné, une institutrice où on lui jette de l'acide sur le visage. Donc tous ces cas-là, c'est tous les jours, c'est leur quotidien. Vous savez, Sophie, je vous raconte une histoire qui m'a fondu le cœur la dernière fois que j'étais en Afghanistan, quand je voyais une maman maîtresse, institutrice, qui serrait tellement fort son enfant, ses 5 enfants avant d'aller à l'école. Je me suis un peu étonnée, je me suis un peu moquée d'elle en disant « Mais enfin, tu vas les revoir, pourquoi tu les embrasses comme ça ?» Et quand elle m'a dit « Quand je pars le matin et je ne sais pas si je vais les retrouver le soir » et que c'est des adieux chaque jour, vous imaginez un peu cet acte héroïque de se dire « On va aller à l'école en tant qu'instit et qu'on embrasse comme ça ses enfants parce qu'on n'est pas sûr de rentrer. »
Les talibans dont vous parlez qui perpétuent ces attentats, ce sont les mêmes avec lesquels les Américains discutent depuis des mois pour éventuellement qu'ils reviennent au pouvoir, les Américains voulant se retirer du pays ?
Ça devient même drôle, cette histoire de négociation, ce mot négociation, on ne dit jamais hors de moi, où les Américains décident, dans un pays de Moyen-Orient, se mettre autour de la même table avec les talibans pour négocier du sort de l'Afghanistan sans la présence afghane, sans la présence du même gouvernement qu'ils ont mis en place eux-mêmes, parce que finalement, ce gouvernement afghan, ce sont les protégés des Américains, à la base.
C'est une épée de Damoclès terrible pour les femmes, ça.
Ben pour les femmes, c'est terrible parce que non seulement elles sont pas dans les négociations, elles suivent pas, et en plus, elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées du jour au lendemain, parce que négociation américaine veut dire qu'ils vont partir et vont donner ce pays dans lequel on s'est battu ensemble pendant 15 ans contre les talibans, on va leur redonner en fait comme un cadeau avec les femmes dedans. Et là où c'était terrible, c'est le jour où ils étaient assis la semaine dernière autour d'une table, ce même jour, ces mêmes talibans revendiquaient l'attentat dans une ONG américano-afghane qui s'occupait des droits des femmes. Moi, je suis très étonnée, même aux États-Unis, que personne pose la question à leur gouvernement, mais comment ça se fait qu'ils revendiquent le même jour où vous êtes autour de la même table avec leur leader? Ils revendiquent l'attentat.
Voilà, c'est un coup de gueule le vôtre. Chekeba Hachemi, présidente et fondatrice d'Afghanistan Libre, une ONG que tous ceux qu'ils souhaitent d'ailleurs peuvent aider sur afghanistan-libre.org. Bravo aussi pour le prix international de la fondation La France s'engage qui vous a été remis le mois dernier pour votre action. Vous avez sûrement lu évidemment Chekeba, Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra.
Ah oui.
Voilà.
Oui,
et c'est désormais un film d'animation qui a été présenté à Cannes cette semaine. On en parle dans un petit instant dans les carnets. Merci beaucoup Chekeba d'avoir été avec nous.
Merci à vous et de votre fidélité pour le combat des Afghanes. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
On fait une courte pause, juste le temps de rejoindre Virginie Salmen à Cannes.
Europe 1, les carnets du monde.
À 13h12, ce n'est pas un conseil littéraire mais cinématographique que nous découvrons aujourd'hui ensemble, Sophie Larmoyer.
C'est un film dans le monde aujourd'hui, mais tout de même tiré d'un roman, Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra. Et c'est un film d'animation, il vient d'être présenté au Festival du film international de Cannes, où vous êtes pour Europe 1, Virginie Salmen. Bonjour.
Bonjour.
On vient de parler du risque de retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Et c'est justement de ce régime dont traite le roman et le film.
Oui, un film très joliment mis en son et en image par Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mévélec pour le dessin. Alors c'est l'histoire d'un jeune couple, Mohsen et Zunaïra. Ils sont beaux, talentueux, cultivés, ils s'aiment à la folie, mais ils sont minés par le fondamentalisme et la charia en vigueur en Afghanistan, à Kaboul, où ils vivent dans une maison un peu délabrée, au confort très spartiate. Zunaïra, elle dessine, elle écoute de la musique, c'est une femme féministe sous la dictature des talibans.
Zunaïra, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider.
Désolée, Nastaran.
Alors, dès les premières images, on est happé par la violence du quotidien. Les bruits de pick-up qui vrombissent très fort avec à bord des chefs talibans armés de Kalachnikov qui tirent en l'air pour un oui, pour un non dans les rues de la capitale afghane. Il y a une scène fondatrice d'une femme vêtue du voile intégral, ce tchadri bleu avec juste un tissu grillagé au niveau des yeux, qu'un groupe d'hommes est en train de lapider en pleine rue. Et là, Mohsen, ce jeune homme si tendre, si sensible, eh bien, il se voit ramasser une pierre et il la lance. Il n'oubliera jamais ce geste. Il va devoir l'avouer à sa fiancée Zunaïra et ce sera le début des événements tragiques en cascade qui vont suivre. Il y a beaucoup d'action, d'anticipation aussi dans ce film.
Oui, comme c'est la réalisatrice Zabou Breitman qui est à la manœuvre, ça doit détonner. C'est son premier film d'animation ?
Oui, c'est la première fois qu'elle fait ça. Alors, vous imaginez avec sa très forte personnalité qu'elle n'a pas fait les choses comme tout le monde. D'abord, elle trouve que souvent, ces films d'animation, eh ben, c'est pas très bien joué. Et pour cause, les acteurs, ils ont le texte en main, ils l'ont pas appris. Ils lisent devant des dessins qui défilent. Alors Zabou, elle a mis un coup de pied dans la fourmilière, elle a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire d'abord faire jouer les acteurs, comme pour un film, même avec les accessoires, par exemple des pistaches, du thé, etc. Et le dessin est venu après.
Donc sur 3-4 jours, on a enregistré les voix, mais en studio, avec les costumes. Et ils savaient leur texte. Donc ils ont joué complètement, quoi. Avec 2-3 petites indications qui étaient, qui pouvaient improviser légèrement. Ce qui s'est passé pour Zita en gros, quand elle avait un tchadri, ils étaient en costume, elle avait vraiment un tchadri, quand il lui fait boire, que Swan Arlo lui propose de boire, elle dit « mais attends, c'est pas ma bouche, c'est mon nez ». Et tout à coup, ça ne s'invente pas, ça.
Donc elle a laissé des petits moments d'impro comme ça et elle a choisi des acteurs puissants, pas seulement des voix. Par exemple, Simon Abkarian, vous savez, le dictateur qu'on a pu voir par exemple dans Kabul Kitchen. Il joue le rôle du gardien de la prison pour femmes et il va tomber amoureux de la jeune et belle Zunaïra, jouée par Zita Enro, et tout faire pour essayer de la sauver de la lapidation qui l'attend elle aussi.
Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son chadré devant moi.
Tu lui as parlé ?
Non.
Vous ne nous avez pas encore parlé du dessin, Virginie.
Alors, c'est un dessin assez culotté, comme le disent Abou Bretman. Mmh. C'est une jeune artiste, Eléa Gobé-Mévélec, qui l'a réalisé. Ce sont des contours à gros traits noirs. C'est fait de façon artisanale, image par image, avec des couleurs poudrées, parce que c'est de l'aquarelle. Donc, il y a une lumière, un soleil vraiment écrasant sur Kaboul et des personnages très poétiques. Il faut dire que Zabou, elle-même, a beaucoup dessiné. Elle a beaucoup de talent, vous savez. Et elle a fait jouer dans ce film aussi son papa, Jean-Claude Deray, scénariste, acteur et écrivain, qui est décédé depuis. Mmh. Il avait 94 ans quand il a joué le personnage du vieux sage du quartier Nazich.
C'est fichu, les talibans nous détruisent. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
Voilà, on ressort de la salle avec une furieuse envie de lire, de regarder des films et d'écouter de la musique. Bref, de profiter de la liberté de se cultiver dont on dispose.
Ouais, liberté chérie. Quand sort-il en salle ce film ?
Alors, sortie prévue le 4 septembre.
Très bien, pour la rentrée, on y sera. Merci beaucoup Virginie, bon festival à vous.
Merci.
Europe 1.
Liberté chérie, ça pourrait aussi s'appliquer au projet européen. Construction permanente depuis plus de 60 ans. À une semaine des élections pour renouveler le Parlement européen, on va se plonger dans trois pays de l'Union, l'Italie, la Hongrie et la Roumanie, en compagnie de l'écrivain Laurent Godet qui nous rejoint dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous Sophie Larmoyer, il est 13h17, l'heure de braquer nos projecteurs sur l'Union européenne qui s'apprête à choisir les membres de son futur Parlement.
J-7 et même un peu moins pour certains des 28 pays de l'Union qui voteront déjà au cours de la semaine. Le week-end prochain, jour du vote, nous serons tenus à la discrétion sur le sujet. Alors on parlera d'autres choses et on en profite donc aujourd'hui pour s'offrir une grande page européenne. Avec trois destinations, nous irons en Italie, en Hongrie et en Roumanie. À Bruxelles, on est en ligne avec notre spécialiste et correspondante Isabelle Horry. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Et on vous retrouvera un petit peu plus tard, tout à l'heure, pour un petit décryptage dont vous avez le secret. Et on est accompagné aujourd'hui d'un écrivain, Laurent Godet. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
On vous connaît surtout pour vos pièces de théâtre et pour vos romans, dont Le soleil des Scorta, qui vous a valu le prix Goncourt en 2004. Mais c'est un essai sur l'Europe que vous avez publié au début du mois. Et à la fois, c'est un poème, parce qu'il est écrit en vers libre. « Nous, l'Europe, banquet des peuples ». C'est l'histoire du continent et de ses peuples. Vous remontez au 19e siècle. C'est une manière de dessiner un peu notre héritage commun, de prendre un peu de hauteur en se souvenant d'où on vient, c'est ça ?
Absolument. C'était l'envie, c'est de chercher au fond dans notre histoire, alors relativement récente, puisque je ne remonte pas jusqu'aux Grecs, un peu ce qui pourrait être une identité, un point commun à tous ces pays qui ont décidé de se rassembler.
En passant par la révolution industrielle, par des événements dynamiques et heureux comme les expositions universelles, d'autres beaucoup plus difficiles, les guerres mondiales, enfin des grandes périodes comme ça qui vous semblaient importantes. Vous dites que c'est un événement inouï au regard de l'histoire, 27 nations décidant de faire un banquet des peuples. C'est une construction pour la paix, pour la prospérité, mais rattrapée par les vieux démons des nations.
C'est ça, c'est mon regard sur cette chose-là, absolument. Ouais. Je pense que je reviens sur le mot inouï, pour réinsister là-dessus. 27 pays, c'est pas rien. Quand on compte 27 pays sur les continents américains, on arrive quasiment aux deux Amériques, si je puis dire. Donc c'est quand même une zone énorme de concertation, d'alliance. Je crois pas que ça ait d'équivalent, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Il faut bien avoir conscience de cette aventure exceptionnelle, il faut en prendre soin. Alors ça veut pas dire qu'il faut... Il ne faut pas être en colère parfois, et je le suis souvent d'ailleurs, mais quand même, ne pas forcément tout de suite jeter le projet, l'aventure, parce que franchement, c'est pas rien.
C'est inouï, c'est pas rien, et donc, c'est pas simple.
Et donc, c'est pas simple.
Notre première destination, c'est celle d'un pays fondateur de l'Europe, l'Italie, historiquement reconnue comme europhile, et qui a pourtant élu l'an dernier un gouvernement eurosceptique et populiste. On va entendre les Italiens qui, à 7 jours du scrutin, placent le parti d'extrême droite de Matteo Salvini largement en tête des sondages. Selon le baromètre de l'Europe, la botte est devenue le pays le plus eurosceptique de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter le reportage à Rome de Blandine Hugonnet.
Dans un quartier populaire du sud de la capitale italienne, Veronica et son compagnon sont en train de coller des affiches sur les immeubles « Stop à l'Europe ». Pour cette militante d'extrême gauche, c'est sûr, si aujourd'hui sa pizzeria fait faillite, c'est la faute de l'Union européenne.
L'Europe, telle qu'elle a été construite par nos dirigeants, est en train de nous détruire, nous le peuple, en nous appauvrissant. On n'arrive plus à vivre, on n'arrive plus à travailler. On a ouvert notre commerce il y a un an et on doit déjà le fermer parce qu'il y a trop de taxes à payer. On essaie juste de survivre.
Depuis la crise économique de 2008, l'Italie n'est toujours pas sortie de la récession. Pour beaucoup, le coupable tout désigné, c'est l'euro. comme pour Roberta, 60 ans, qui n'ira pas voter la semaine prochaine. Elle tient une modeste boutique d'artisanat avec ses parents âgés. Autrefois europhiles, aujourd'hui, ils se disent écœurés par l'Europe. L'an dernier, ils ont même donné leur voix à l'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini.
On a déjà assez d'emmerdes en Italie. Les routes défoncées, les poubelles jamais ramassées. Mais au niveau européen, ça n'intéresse personne. Je pense même qu'on devrait quitter l'Europe, parce que pour moi, ça a été un désastre de nous mettre à l'euro. L'économie italienne en a tellement souffert. D'ailleurs, ça fait plus de 10 ans qu'on subit cette crise. C'est effrayant. Tous les prix ont trop augmenté. Les loyers, la vente au détail, l'alimentation aussi. Donc maintenant, on est d'abord inquiet pour nous et l'Europe, on verra plus tard.
Les jeunes aussi sont inquiets, mais tout de même, ce sont eux qui semblent garder le plus espoir en l'Europe. Selon les sondages, 75% des 18-35 ans iront voter le 26 mai. Comme Emanuele sur son scooter, gilet fluo sur le dos, il livre des repas à domicile pour éviter d'être au chômage. C'est le cas d'un jeune sur trois en Italie, un des pires taux de l'Union européenne. Emanuele votera, mais à 22 ans, il rêve quand même d'une Europe plus solidaire.
Je suis profondément pro-européen, mais je ne crois pas en l'Europe d'aujourd'hui. On n'est pas protégé et le chômage des jeunes, pour moi, c'est clairement le problème le plus grave de ce pays, parce qu'on ne voit pas notre avenir. Par exemple, moi je n'ai pas de congé maladie ou de 13e mois. Il faut vraiment que l'Europe remette les droits fondamentaux et l'État-providence au centre. Ça va être difficile, mais il ne faut pas abandonner ce rêve. Les Italiens ont toujours été europhiles, donc même si en cette période historique il y a des changements négatifs, moi j'ai confiance.
Une Rome moins inégalitaire, c'est ce que veut aussi Alessandro. Ce trentenaire profite d'un concert sur une place de Rome pour convaincre les jeunes d'aller voter.
Moi, je vais voter parce que l'Europe est instrumentalisée par le monde de la finance, les banques, les grosses entreprises. Et derrière chaque politique qui s'en prend à nous, les travailleurs, il y a des directives européennes. Je veux une Europe des peuples, une Europe sociale, surtout pas l'Europe d'aujourd'hui, et encore moins un retour au fascisme et au nationalisme.
À côté de lui, son ami Paolo, au chômage malgré son diplôme de médecin. Pour lui, pas question de gâcher 60 années d'héritage européen.
Je vais aller voter parce que pour moi, un monde sans cette Europe, c'est un retour en arrière de 1000 ans. Nous, on est jeunes, on a la chance d'être nés dans un monde où, si on veut voyager en Europe, on peut le faire librement, sans demander la permission à personne. Ça, on doit le protéger pour toujours, parce que c'est pas un dû en fait. C'est une conquête qu'ont réussi nos grands-parents et nos parents et qu'on doit défendre.
Bon appétit !
Changement de décor et d'ambiance dans le centre historique de Rome. Comme chaque midi, une église est aménagée en soupe populaire. Depuis qu'il a perdu son travail de serveur, Enrico vit dans la rue et vient déjeuner là tous les jours. Ce quarantenaire a perdu ses illusions. Pour lui, l'Europe ne sert à rien aux 5 millions d'Italiens en situation de pauvreté absolue.
Franchement, il y a plein de pro-européens qui essayent de nous convaincre de voter en ce moment. Mais je doute vraiment qu'il y ait un seul politique qui me fasse me sentir un peu protégé. Parce qu'au fond, les pauvres en Europe, ils s'en fichent. Est-ce qu'ils connaissent vraiment la situation en Italie de tous ces gens qui vivent dans la rue ? Je ne crois pas.
À quelques mètres de là, dans son épicerie, Alfonso est méfiant. Parmi les personnes pauvres, il a remarqué beaucoup d'étrangers. Et il compte sur les élections européennes pour arranger ça.
Il ne faut pas sortir de l'Europe, ce serait une catastrophe. Mais il faut du changement et avant tout, il faut régler le problème de ces migrants. Tout ce bazar, il faut le résoudre tous ensemble. Ça, il faut que ce soit la priorité pour tout le monde. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai soutenu Salvini.
La gestion de l'immigration, c'est l'un des grands thèmes de cette campagne. Les Italiens se sont sentis abandonnés par Bruxelles face aux 700 000 migrants débarqués sur les côtes depuis 5 ans. Habitante du quartier et électrice du mouvement 5 étoiles, Daniela est convaincue que c'est bien cet abandon de l'Europe qui a offert sa première victoire à l'extrême droite italienne.
Salvini, c'est un peu la conséquence de l'Europe. D'un point de vue idéologique, Salvini, j'ai envie qu'il dégage. Mais d'un point de vue pratique, il a raison. Parce qu'on a vraiment besoin de réguler l'immigration et que l'Europe ne s'en préoccupe pas. Et malheureusement, l'Europe est née pour des raisons positives. Mais les répercussions sur l'Italie sont vraiment négatives. Donc je ne sais pas encore si je vote. Parce que je ne suis pas contre l'Europe, mais j'en suis déçue.
Immigration de masse et récession économique en Italie, pays fondateur. Cette double crise a fait chuter la confiance des 51 millions d'électeurs. Selon les sondages, dans une semaine, plus d'un sur trois n'ira pas voter au scrutin européen. Et un quart d'entre eux se dit encore indécis. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Voilà, indécision, désintérêt des Italiens, parfois des amours, hein, on l'a entendu. Pourquoi, Laurent Godet, votre livre paraît-il simultanément en Italie ? Pour nourrir le débat là-bas aussi ?
Oui, parce que j'ai la chance d'avoir un éditeur italien qui avait envie justement de saisir cette opportunité. Et puis c'est vrai que moi, ça me fait plaisir qu'un texte comme ça qui parle d'Europe puisse sortir simultanément dans un pays Un pays voisin, un pays ami, un pays dans lequel effectivement la question européenne est en cœur et ouais, est difficile en ce moment.
On l'a entendu, hein, les Italiens ont le sentiment d'avoir été abandonnés, c'est ce qu'ils disent, par l'Europe face notamment à l'afflux de migrants. Et en même temps, les bateaux humanitaires ont été mis à quai de force et Bruxelles a décidé le retrait de ces bateaux de l'opération Sophia en mer Méditerranée. Ça veut dire qu'on s'en remet à la Libye où, on le sait, les migrants sont maltraités, enfermés, parfois torturés. Dans une tribune au Monde en octobre dernier, vous écriviez « À défaut de trouver une solution à un problème complexe, on cherche à le rendre invisible ».
Bah ça y est, là, hein. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, repousser la limite géographique du moment où ces gens-là vont être, entre guillemets, pris en charge, parce que maintenant, je ne sais même pas s'ils vont l'être, c'est une manière de dire, bon, bah, le problème n'existe plus. C'est un tour de passe-passe politique. Et c'est scandaleux, parce que de fait, on ne sait pas du tout ce que va devenir l'accueil, si je puis dire, des migrants par les autorités libyennes.
Ça veut dire que sur ce dossier-là, l'Europe renonce à l'humanisme ?
Ah ben, sur ce dossier-là, moi, je pense que l'Europe a failli, bien sûr. Et d'où ma colère et d'où la nécessité d'y revenir, de batailler.
Et
bien
en
sûr.
Même temps, vous entendez l'incompréhension des Italiens qui disent on s'est ressenti tout seul.
Mais c'est vrai. Effectivement, il y a eu des tas de mois et d'années où c'est sur leur côte qu'arrivaient les bateaux et les autres pays européens n'étaient pas très pressés de dire on va gérer ça d'un point de vue européen. Donc Salvini naît de cela. Après, sa réponse politique est, moi je trouve, d'une laideur infinie et surtout n'est pas une solution. C'est frappant quand même d'entendre tous ces jeunes Italiens qui disent ça va mal en Italie. Mais alors là, pour le coup, on ne fait jamais appel à la nation. C'est-à-dire que si ça va mal en Italie, c'est pas la faute de 10 ans de berlusconisme ou du gouvernement de Salvini. C'est la faute de l'Europe.
Pour les soupes populaires, pour les routes défoncées, pour les poubelles pas ramassées aussi. Merci Laurent Godet. On va poursuivre cette discussion ensemble et notre périple en Europe en filant vers l'Est. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Suite de la page européenne avec vous Sophie Larmoyer et votre invité, l'écrivain Laurent Godet.
Grande page européenne à quelques jours des élections qui vont envoyer 750 députés à Strasbourg et Bruxelles, puis 705 seulement lorsque les Britanniques auront enfin réussi à se mettre d'accord sur les conditions de leur sortie. Et l'écrivain Laurent Godet nous accompagne, romancier, dramaturge, poète et essayiste, avec ce dernier ouvrage que publie Actes Sud, « Nous, l'Europe ». Banquet des peuples et on met le cap à l'Est, je le disais, vers ces pays que l'Union européenne a intégrés après la chute du mur. Alors c'était en 2004 pour la Hongrie, un pays qui est aujourd'hui dans le collimateur de Bruxelles pour risque de violation des valeurs européennes et atteinte à la démocratie. Les médias notamment ont été complètement verrouillés par l'homme fort au pouvoir, Viktor Orban et son clan. Orban qui est largement en tête dans les sondages. Difficile de faire entendre les voix dissonantes en Hongrie au point que des citoyens ont créé leur journal qu'ils diffusent sur Internet. Il s'appelle Nyomatche Itch, j'espère que je l'ai bien prononcé, ça veut dire imprimez-le. Reportage à Budapest de Sébastien Krebs.
Ils ont décidé d'écrire leur propre journal. Discrètement, ils rédigent leurs articles au bureau ou à la maison, presque clandestinement, et publient cette simple feuille volante recto verso sur leur site internet.
Tout le monde peut télécharger le journal sur notre site, l'imprimer, le diffuser.
Noémie le glisse chaque semaine dans les boîtes aux lettres de son quartier, et surtout le week-end dans le village de ses parents, loin de Budapest, où les vraies informations, dit-elle, ont bien du mal à arriver.
Là-bas, les gens ne sont pas très connectés à internet, alors c'est une manière de les informer. Mais il fallait que je fasse quelque chose.
À la une du dernier numéro, par exemple, le journal démonte l'unique argument de campagne du camp de Viktor Orban. Non, la préoccupation première des Hongrois n'est pas l'immigration. Le journal cite un sondage qui indique que ce serait plutôt la corruption. Contrer les messages officiels, donner d'autres infos que celles relayées par la télévision publique, par exemple. Ce soir-là, la une du journal télévisé évoque une nouvelle fois les migrants, accuse Bruxelles et ne parle que de la campagne de Viktor Orban. C'est tous les jours comme ça, se lamente Andrash Lederer du comité d'Helsinki, une ONG de défense des droits de l'homme, et pas seulement à la télévision.
Regardez, je suis sûr que si j'ouvre un site internet d'infos proche du gouvernement, vous allez voir, la plupart des articles seront liés aux migrants. Celui-là, c'est à propos d'un ministre qui a parlé de l'immigration. On ne sait pas ce qu'il a dit, on sait juste qu'il en a parlé. En dessous, c'est l'opposition ment à ses électeurs. Voilà, ça c'est les infos. Pour le Hongrois moyen, c'est extrêmement difficile d'être informé en dehors de cette bulle. Outside of
this bubble. Un matraquage qui fonctionne à plein pour mobiliser l'électorat de Viktor Orban à plus de 50% des intentions de vote dans les derniers sondages. Cette fonctionnaire, qui préfère rester anonyme, ne regarde plus jamais les médias de son pays.
Ça me met toujours en colère. Ils ne disent pas la vérité, je crois.
C'est juste pour faire peur aux gens.
Une couverture presque à sens unique, y compris dans les médias privés, progressivement rachetés par quelques oligarques proches du Premier ministre. Plusieurs centaines de journaux régionaux ou de radios ont été récemment regroupés dans une vraie machine de propagande, dénonce le journaliste Gabor Horvat, rédacteur en chef au quotidien Nespava.
En décembre dernier, ils ont regroupé quasiment tous les journaux dans une seule entité. 476 médias sont ainsi dirigés depuis un seul centre de décision.
Une concentration contraire, selon lui, au principe du pluralisme pourtant défendu par l'Union européenne. Faire entendre une autre voix devient ainsi quasi mission impossible. Gergely Bruckner travaille pour le plus gros site internet d'information indépendant.
Notre espace d'expression est très limité. Les ministères, les officiels ne nous accréditent jamais et ne répondent pas à nos questions. Ils utilisent aussi parfois des moyens juridiques. Un jour après un article, la police voulait connaître mes sources. C'est un retour en arrière, comme au temps du système soviétique où nous avions ce genre de propagande.
Fenêtre très restreinte aussi pour les opposants politiques, même en période électorale, pas d'égalité du temps de parole. Le leader du parti pro-européen Momentum avoue faire campagne avec les moyens du bord. Il faut être créatif, dit-il, pour tenter de se faire entendre. Il reste bien sûr les réseaux sociaux et aussi son petit camion publicitaire à bord duquel il continue de sillonner le pays jusqu'au vote dimanche. Budapest, Sébastien Krebs, Europe 1.
Voilà, un aperçu évidemment de la campagne en Hongrie pour ces élections européennes. Laurent Godet, qu'est-ce que ça vous inspire, ce verrouillage des médias en Hongrie et en fait tout le système qui est porté
Un certain vertige, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, avant l'arrivée d'Orban, si on avait défini l'Europe comme une zone de démocratie et de pluralisme, on aurait dit oui, vous enfoncez des portes ouvertes, évidemment c'est bien ça l'Europe. Et on voit qu'en fait les lignes bougent vite, c'est-à-dire en 5-10 ans, on se retrouve face à des choses qui réapparaissent. Et du coup, nos valeurs qui nous semblent parfois absolument évidentes, c'est-à-dire non seulement celles du suffrage universel, mais aussi du fonctionnement démocratique de nos sociétés une fois qu'on a voté, parce qu'il y a tout le reste aussi, il y a les parlements, il y a les journalistes, tout ça, c'est ça qui fait vivre la démocratie. Et bien en fait, on se rend compte qu'il faut, y tenir et la réinvestir en permanence.
Tout le temps.
Mais c'est pas acquis, la preuve.
Je vous propose d'entendre d'autres Européens de l'Est, cette fois des Roumains qui ont rejoint l'aventure en 2007. Alors là-bas, la population est confrontée à un problème majeur, c'est la corruption. La situation s'est dégradée en plus depuis que le Parti social-démocrate est revenu au pouvoir en 2016. Pas plus tard que cette semaine, l'Union européenne s'est officiellement alarmée des risques pour l'état de droit. L'homme fort de Bucarest, Liviu Dragnea, a été condamné pour trafic d'influence l'an dernier. Il veut limiter l'indépendance de la justice et amnistier tous les hommes politiques corrompus. Les Roumains, eux, n'en peuvent plus de cette corruption qui perdure à tous les niveaux de la société. Voici le reportage d'Isabelle Horry à Sibiu, dans le centre du pays.
Midi sonne au clocher de l'église de Sibiu, 400 000 habitants, jolie ville au pied des montagnes des Carpates. Et comme chaque jour, ils sont là, une trentaine d'hommes et de femmes de tous âges, alignés sur le trottoir, face aux fenêtres du siège local du PSD, le Parti social-démocrate au pouvoir à Bucarest. Théodora est enseignante à l'école secondaire.
Nous sommes ici pour protester contre la corruption du gouvernement roumain. Notre manifestation est silencieuse et cela fait plus de 500 jours que nous nous rassemblons.
Derrière la haie de manifestants, une grande banderole noire, décorée du dessin des fenêtres caractéristiques de Sibiu, ces fenêtres qui ressemblent à un œil ouvert, et un slogan « Va Vedem », traduction « On vous voit ». Kylian est le pasteur du quartier, il est venu manifester avec sa fille de 13 ans. La corruption, il la voit, effectivement, y compris quand il est en pleine nature.
À chaque fois que je me promène en forêt, je constate que le déboisement s'étend. Pour chaque quantité de bois légalement exploité, un volume équivalent disparaît illégalement. Nous avons des forêts primitives magnifiques en Roumanie, une des plus grandes biodiversités d'Europe. Et à cause de la corruption, tout ça est en train de disparaître. Il y a quelque temps, il y avait carrément un ours ici, en pleine ville. Il avait perdu son habitat dans les bois. Le pauvre animal était devenu fou. Il a fallu l'abattre.
L'administration locale et nationale est gangrénée par les nominations politiques. Même les directeurs d'école sont choisis pour leur fidélité au parti, explique Théodora, l'enseignante, un phénomène qui s'étend au domaine de la santé.
Dans les hôpitaux, vous n'êtes pas traité humainement, à moins que vous ne payiez un pot devant au médecin. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de cette koutouma, cette habitude qui date du communisme. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai dû donner à un chirurgien une enveloppe avec de l'argent pour avoir droit à une opération de qualité.
Et encore, ça c'est le moins pire des cas, renchérit Kylian. La corruption va encore plus loin. Comme l'argent public est détourné, les infrastructures qui sont en partie financées ne voient jamais le jour.
Pourquoi y a-t-il si peu d'hôpitaux? La situation est effarante pour les hôpitaux publics. Et pourtant, ils ont toutes les autorisations pour en construire. Mais voilà, il y a la corruption. Nous avons un slogan. Corruptia uccide, ça veut dire la corruption tue, et elle tue pour de vrai. Elle tue les gens qui ont besoin d'un hôpital, qui ne savent pas où aller ou qui sont soignés dans de mauvaises conditions.
Les manifestants rêvent de changement. Beaucoup s'apprêtent à voter pour les nouveaux partis anticorruption. Paula, la fille du pasteur, n'a pas encore le droit de vote, mais elle s'inquiète pour le futur de son pays.
Nous ne voulons pas vivre dans un pays dont les dirigeants sont corrompus. Ils sont en train de nous emmener sur un mauvais chemin.
Lassés par ces pratiques d'un autre temps, les jeunes Roumains prennent le chemin de l'exil. Le pays se vide de ses forces vives, plus de 3 millions de départs en 10 ans. Cela désespère Bernard, ce retraité de 76 ans en veut à ceux qui gravitent dans les cercles du pouvoir.
Le système juridique n'a pas pour but de développer le pays, non. Il sert à donner le droit à ces gens de faire tout ce qu'ils veulent. Nos enfants sont partis, ils travaillent à l'étranger car rien n'est fait ici. Il n'y a pas d'investissement. C'est pour cela que nous sommes mécontents. La corruption est partout.
C'est partout. Il est midi un quart, la manifestation se termine, chacun reprend le fil de ses activités, mais demain, au premier coup de midi, ils seront de retour. Sibiu, Isabelle Horry, Europe 1.
Laurent Godet, on le voit, c'est compliqué hein, d'harmoniser les pratiques à 27. Vous consacrez un chapitre de votre livre à l'élargissement. Vous répondez à tous ceux qui disent qu'on a été trop vite pour accueillir les pays de l'ancien bloc de l'Est et qu'on était trop différents pour que ça marche.
Oui, parce que je pense que vraiment la politique, c'est le... Il ne faut jamais oublier que c'est une réponse sur l'instant. La politique réagit à un moment donné. Donc c'est facile aujourd'hui de dire on a élargi trop vite, mais si on se remet cinq minutes dans le contexte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dire non aux Polonais, aux Roumains, aux Tchèques? Dire non, c'est trop tôt? Ils sortaient d'une période où ils avaient été emmurés dans un espèce de ralenti de l'histoire où plus rien ne se produisait. Je veux dire, on ne pouvait pas ne pas élargir aux pays de l'Est. C'était nos frères qui sortaient de 50 ans d'oppression. Donc, je crois que là, il n'y a vraiment aucun regret à avoir. Après, ça pose de réels problèmes, et on l'entend là, c'est qu'effectivement, les pays ne sont pas au même point de leur histoire. Il y a une énorme diversité de réalités économiques, politiques, etc.
Mais quel parcours, quand même, déjà?
Mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas rien, et peut-être que, justement, par rapport à un système gangréné par la corruption, l'Europe peut fonctionner à la fois comme une sorte de boussole pour la jeunesse roumaine, qui pourra dire c'est ça qu'on veut, et c'est possible juste à côté, donc pourquoi pas chez nous, et peut-être aussi comme quelqu'un qui tape sur les doigts du pouvoir en place.
Que peut l'Europe? On va en parler dans un tout petit instant, justement, avec Isabelle Horry, qui nous attend toujours à Bruxelles. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Grande page européenne sur Europe 1, les élections ont lieu dans une semaine. Sophie Larmoyer, vous êtes toujours avec votre invité. Nous sommes toujours avec Laurent Godet qui publie un grand poème sur l'Europe, une sorte de plaidoyer pour se souvenir à la fois d'où on vient, comment on s'est construit et puis questionner hein, qui sommes-nous aujourd'hui, où veut-on aller ensemble. On a été en Italie, en Hongrie, en Roumanie et c'est vrai que le tableau apparaît un peu sombre. On peut se demander parfois si l'Europe est en train de dérailler et ça mérite un petit décryptage. Isabelle Horry, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Bruxelles. Sûr. On l'a entendu, hein, les valeurs communes, les valeurs démocratiques sont ébranlées. Que fait l'Union européenne pour faire face?
Bon, la Commission européenne tempête et menace, mais elle n'est guère soutenue par les capitales. Hein. Elle a enclenché des procédures contre la Hongrie et la Pologne aussi, ce qu'on appelle les procédures article 7. En théorie, quand il y a des menaces sur l'état de droit dans un pays, cette procédure peut conduire à le priver de ses votes, ses droits de vote au niveau européen. Le problème, c'est que pour avancer, il faudrait justement un vote à la majorité des pays européens. Or, eux, ils traînent les pieds depuis des mois sur ces questions. Et puis, vous l'avez dit, Bruxelles a aussi écrit à la Roumanie il y a quelques jours pour menacer de la traîner devant la Cour de justice pour sa réforme contestée du système du judiciaire. Mais tout ça, ce sont des processus longs, fastidieux et qui ne donnent pas de résultats spectaculaires.
Ça donne un sentiment d'impuissance un peu quand même.
Alors c'est paradoxal parce que quand ces pays ont voulu entrer dans l'Union européenne, il a fallu qu'ils respectent des critères stricts de pluralisme, d'indépendance de la justice, de la presse. Et maintenant qu'ils sont dans le club et qu'ils reviennent en arrière, n'y a plus vraiment d'instruments. Et du coup, en cette période de campagne électorale pour les européennes, certains prônent justement des mesures plus radicales, comme le lien entre le versement des fonds structurels, les fonds de la politique régionale qui sont si précieux à l'Est, et justement le respect de l'état de droit. C'est notamment une demande des partis centristes et libéraux en Europe, comme par exemple La République En Marche.
Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que ça bouge?
Alors, le tableau n'est pas complètement sombre, parce que ces pressions européennes, elles ont quand même un effet psychologique. En Pologne, par exemple, l'opposition s'est rassemblée derrière une bannière unique pour s'opposer au parti au pouvoir, notamment parce qu'elle ne veut pas être mise au banc de l'Europe. En Slovaquie, en Roumanie, les pro-européens libéraux marquent aussi des points. Écoutez ce qu'en dit Yves Bertoncini du mouvement européen.
C'est une pression d'abord politique, pas vraiment de sanctions juridiques possibles. Et puis ensuite, c'est une pression qui vient de l'intérieur, parce que précisément comme ces peuples ne sont pas europhobes, qu'une grande partie d'entre eux est très attachée à ce qu'est l'Europe, bien sûr un espace de libre circulation, des financements, mais aussi des principes, des valeurs, il y a une résistance intérieure dans ces pays qui s'exprime. C'est pas facile, parce que notamment en Hongrie, il y a quand même une restriction du pluralisme. Mais c'est là-dessus que l'Union européenne peut miser. Ces sociétés civiles là, qui essayent de faire front en espérant qu'elles arriveront à l'intérieur, on l'a vu en Pologne, il y a quand même eu des mouvements de protestation efficaces, à changer la donne plutôt qu'à choisir l'exil, parce que ça, évidemment, c'est une autre ressource que l'Europe leur offre, c'est-à-dire la possibilité de quitter leur pays pour aller tenter leur chance ailleurs.
Voilà. Est-ce qu'ils sont nombreux, Isabelle, à tenter leur chance ailleurs ?
Et oui, justement, on entend les pays de l'Est souvent contre les migrants, mais en fait, ils ont eux-mêmes un gros problème d'émigration, parce que en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, les jeunes les plus diplômés s'en vont. Et certains experts de ces régions pensent justement que c'est un grand défi qui pourrait justement à terme ébranler les régimes populistes. Ouais.
C'est dans des proportions parfois incroyables. Hein. La Roumanie où vous étiez, Isabelle, il y a un récent rapport de l'ONU basé sur des données de 2015, mais qui pointait que la Roumanie arrivait juste après la Syrie dans la liste des pays dont le taux de migration grimpe le plus. Donc c'est quand même fou. Isabelle, vous restez avec nous. Laurent Godet, où placez-vous votre espoir ?
Mon espoir, d'abord dans la jeunesse, parce que je pense que elle a envie d'une zone de prospérité et de paix. Je pense que c'est justement ça l'enjeu. C'est que pendant 50 ans, l'Europe s'est construite sur cette idée de paix, que c'était ça qu'elle offrait à ses citoyens. Et c'était pas rien, et c'est encore vrai d'une certaine manière. Mais bizarrement, cette idée n'opère plus vis-à-vis de la jeunesse, qui a l'impression que la paix, elle est acquise et que ça n'est plus une chose à conquérir. Et je pense que l'Europe doit l'entendre, ça, et doit changer de cheval de bataille.
C'est pas rationnel, ça.
C'est pas rationnel, voilà. Parce qu'objectivement, on a besoin de la paix. Mais on a l'impression que la paix, c'est plus un enjeu, que c'est acquis.
Que c'est pour toujours, ouais.
Par contre, la solidarité sociale, la fraternité au sens vraiment concrètement, ça je pense que c'est le grand enjeu. Si l'Europe arrive à faire des signes de ce point de vue-là, et que les citoyens européens commencent à sentir que cette entité européenne leur donne un certain nombre d'acquis sociaux, là il peut y avoir un pacte entre les citoyens et la construction européenne.
Vous mettez en garde dans votre livre contre l'indifférence qui touche les Européens. Je lis un petit extrait. L'indifférence s'empare des peuples fatigués et les assèche, les diminue. Que peut l'Europe contre la fatigue de ses propres peuples ? Tant que le continent tremblait de guerre et de soumission, les citoyens voulaient la paix. Aujourd'hui, ils l'ont. Et la démocratie parlementaire les ennuie. Ils veulent un chef, un homme fort. Et pourtant, où mènent les chefs ? Nous le savons. Nous devrions plus que tout autre nous méfier à la vue des peuples transis devant l'homme providentiel. Et on pense évidemment à Salvini, qui est présenté comme l'homme fort de l'Europe aujourd'hui. On pense à tous ces pays, ils sont nombreux, où les populismes ont le vent en poupe en Europe.
C'est un mouvement qui dépasse l'Europe, qui a frappé aussi l'Amérique. Mais d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Trump soutient Orban, et réciproquement, si je puis dire. On voit bien que l'Europe, pour ces gens-là, est l'ennemi absolu, parce que c'est la concertation, c'est la pluralité et c'est la lenteur. On a parlé de la lenteur tout à l'heure et on en parle toujours comme d'un inconvénient. Moi, je veux bien et j'entends qu'on aimerait que ça aille plus vite, que ça soit plus efficace. Mais d'une certaine manière, l'Europe a choisi de se mettre sous le signe de la lenteur pour se préserver de ce que peut produire la rapidité. Parce que la rapidité, en politique, c'est dangereux. Ça veut dire aussi que ça peut être le choix d'un seul. La lenteur, c'est le sang-froid, c'est la concertation, c'est être bien sûr que tout le monde est d'accord. Au fond, l'Europe est aussi le laboratoire de tout ça.
C'est le contraire de l'homme fort.
Oui, je pense.
Et donc ce scrutin ne doit en aucun cas nous laisser indifférents, si je vous écoute bien.
Ça, moi je trouve que c'est le grand, la seule chose dont je veux dire qu'on est coupable collectivement, c'est cette indifférence et cette... Oui, cet absentéisme politique. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'Europe si on n'y met pas d'une autre. L'Europe n'est rien sans nous, mais d'une manière plus générale, de la politique. Le taux d'absentéisme, moi, me navre toujours, parce que ça veut dire qu'en fait, les peuples s'en fichent. Et quand les peuples s'en fichent, qu'est-ce que vous voulez faire? Après, il ne faut pas pleurer 5 ans plus tard quand on voit les conséquences du vote. Ma plus grande colère, elle est là. C'est une espèce de désir de mobilisation, qu'il y ait un petit peu de passion dans ce projet. Ouais.
Et en même temps, c'est un peu paradoxal, vous rappelez que l'Europe s'est construite sans faire appel au suffrage universel direct parce qu'elle sortait d'un chaos où les peuples avaient tort.
Ben oui, c'est vrai que ce qui avait mené à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé en Allemagne, le peuple allemand a eu tort, je suis désolé. Donc l'Europe s'est construite par terreur vis-à-vis de ça, en disant il faut justement des échelons, il faut des discussions parlementaires, et le tout référendum, ça peut mener aussi à ça, au dictateur. Et aujourd'hui, on est dans une période où on nous vante sans cesse le mérite de l'homme providentiel. S'il y a bien un endroit du monde où on se souvient de ce que ça peut donner, je pense que c'est l'Europe.
Dites que la faute originelle de l'Union européenne, c'est peut-être l'absence de passion populaire au départ.
Parce qu'elle en avait peur et parce qu'elle avait raison d'en avoir peur à l'époque. Simplement, aujourd'hui, on ne pourra pas continuer sans la réintégrer, cette passion. C'est ça notre difficulté.
Comment on fait pour refaire naître le désir?
Ben, c'est une bonne. Si j'avais la solution, j'aurais
Isabelle
présenté Laurie une liste
à Bruxelles, dont c'est le pain quotidien.
C'était exactement la question que je voulais poser, donc je me suis dit c'est ça. Ouais.
Ben, à mon micro niveau, c'est peut-être de m'en emparer d'abord, parce que c'est vrai que c'est par exemple un sujet qui n'est pas évident en littérature. Moi, j'avais envie de me frotter à la question du récit européen pour voir aussi si je pouvais mettre un petit peu de passion. Je célèbre un certain nombre de choses dans ces pages-là. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui peuvent le faire, des poètes, des romanciers. Elle naîtra de ça aussi, la passion.
Le choix de la poésie, de la forme de ce livre, donc
c'était pour
un
ça.
Grand poème en vers libre, c'est pour ça.
C'était
pour donner
ça.
Envie.
Oui, parce que je crois que les mots journalistiques, ils existent. Les mots politiques, ils existent. Les mots de la poésie, ils existent un petit peu moins au niveau de l'Europe. Et puis, comme c'est mon domaine, ça m'intéressait de me frotter à ça, avec ces mots-là.
Et c'est de la poésie pour tous. C'est un texte riche qui permet de réfléchir, loin des slogans de campagne, à cette construction commune et à ce qu'on voudrait en faire. Ou pas. Nous, l'Europe, ce sera aussi un spectacle cet été à Avignon, au Festival d'Avignon.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Merci Laurent Godet de nous avoir accompagnés aujourd'hui longuement dans les Carnets du Monde. Merci Isabelle, à bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les Carnets du Monde.
Sophie Larmoyer, l'autistan, c'est ailleurs. Et c'est un peu partout à la fois. C'est là que Joseph Chovanec nous emmène chaque dimanche pour clore les carnets. Il est 13h51.
Joseph nous aide à regarder le monde autre nous sous un autre prisme, nourri de ses voyages, de son autisme et toujours d'un bon zeste de philosophie. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Avec une invitation aujourd'hui à nous ouvrir à des cultures radicalement différentes.
Oui Sophie, on nous dit que le monde est un village, mais ce n'est pas tout à fait exact. On entend certes parler de telle ou telle culture dans les médias, mais quand est-ce que nous avons croisé pour la dernière fois un Indien d'Amazonie avec ses plumes son habit traditionnel.
Ah bah ici même, il y a quelques semaines, vous ne croyez pas si bien dire, on a reçu une chef d'Amazonie brésilienne, la cacique Tanone. Bon, wow. Je reconnais que ce n'est pas tous les jours quand même.
Mais au Forum des Peuples Premiers à Strasbourg, le week-end dernier, était entièrement tissé de ces moments pour
et vous
moi.
Y étiez. Ouais.
L'idée est simple du Forum des Peuples, inviter en Europe des représentants de peuples non occidentaux. Non pas pour les occidentaliser ou pardon pour le vocabulaire, les civiliser comme on a dit à l'époque coloniale, mais pour les écouter, nous parler de leur mode de vie, de leur sagesse. Autre objectif plus cocasse, faire en sorte que des peuples, par exemple, d'Amazonie et de l'Himalaya se rencontrent. En d'autres termes, si un chaman pygmé en grande tenue passe à côté de vous, juste après que vous avez salué des guerriers Maasai, c'est que vous êtes bien au Forum des Peuples.
Ça doit être une grosse organisation de faire venir des gens si différents et qui viennent tous de loin, a priori.
Beaucoup de boulot pour les organisateurs pendant longtemps. Et tout s'est bien passé. Mais pas toujours comme prévu. Il y avait eu beaucoup de surprises fabuleuses. Par exemple, côté blanchisserie. Dans les hôtels, il y a des grilles tarifaires pour les services de blanchisserie. Ouais. Une chemise, 7 ans. Mais comment faire pour la tenue traditionnelle d'un Indien tapis râpé avec ses grandes plumes Autre problème, le sommeil. Un représentant des aborigènes d'Australie nous a expliqué que pour lui, eh bien, il était très important de dormir les oreilles proches de la terre pour l'écouter. Et à ses yeux, l'invention occidentale du lit était extrêmement barbare car elle coupait ce lien. Allez expliquer ça au patron de l'hôtel.
Et sur place, alors, j'imagine que vous avez fait plein de rencontres, il y avait du monde ?
La foule était au rendez-vous. Hein. Ouais. D'ordinaire, quand on organise les événements, la grande hantise est qu'il n'y ait personne. On multiplie les annonces sur les réseaux sociaux. Hein. On croise les doigts. Mais dans le cas du Forum des Peuples, on a été submergé. On avait dit aux gens de ne pas venir sans préinscription. Mais le matin, la rue a été bloquée par la foule hein, qui espérait malgré tout trouver une place. Crève-cœur garanti.
Les gens venaient en nombre écouter de sages paroles.
Oui, et c'est ce qui m'a donné le plus à réfléchir. Pourquoi les Occidentaux ont-ils un tel besoin, quasiment vital, de comprendre le mode de vie des peuples divers à travers le monde, alors que sur le plan matériel, même un Français avec des revenus relativement modestes devrait se porter 100 fois mieux qu'eux. La réponse nous a été donnée spontanément par un membre du public qui s'était écrié « Quand on voit le sourire désarmant du représentant du peuple Loba, un petit peuple des montagnes du Népal, on comprend qu'on a raté quelque chose dans la vie. Et cela fait beaucoup plus de bien que 1000 séances de shopping. »
Et Joseph, qu'est-ce que vous faisiez, vous, au milieu de ces peuples premiers ?
Ah, bonne question. C'est simple. L'une des organisatrices avait eu l'idée de m'inviter en tant que représentant d'un autre peuple un peu bizarre, à savoir les autistes. Je la remercie vivement pour cela. Parler devant un auditoire d'où émergent les plumes rouges sang et les lances des guerriers Maasai, c'est toujours une expérience. Surtout que j'ai eu l'impression que les peuples premiers avaient au moins aussi bien compris l'autisme que les savants occidentaux, malgré les barrières linguistiques. L'une des grandes questions qui s'était posée à l'issue du forum, c'était celle de la rétribution. Les peuples premiers ont fait un long périple, enfin sauf moi, hein, ont bossé dur pendant des journées entières pour remonter le moral aux Européens. Qu'allait-on leur offrir en retour ? Pas facile de deviner, une forme de culpabilité. Hein. Les représentants du peuple Loba nous ont facilité la tâche. Ils ont demandé à voir pour la première fois de leur vie la mer. Ils sont donc pour quelques jours à Cherbourg. Comme quoi, on a tous quelque chose à apporter à l'autre.
Absolument. Et vous voilà devenu représentant officiel de l'Autistan parmi les peuples premiers. Et nous, chaque dimanche, on profite de la sagesse Chovanec. Merci beaucoup.
Merci à vous. À très bientôt.
À dimanche prochain.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer ces carnets. Merci de nous avoir accompagnés. Vous le savez, vous pouvez réécouter l'émission quand bon vous semble. Tout est dispo sur europe1.fr. Merci à Julien Blanc qui a réalisé ces carnets, à Hélène Terzian qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.